Chapitre 5. Le passage fluide du temps. Portrait à la foudre. Mon problème de drogue. Quand je suis sorti diplômé de l'université du Maine, avec à peine plus que la moyenne loupé la mention d'un poil, j'avais 22 ans. Lorsque j'ai revu Charles Jacobs, j'en avais 36. Il faisait plus jeune que son âge, peut-être parce que la dernière fois que je l'avais vu, il était amaigri et hébété par le deuil. Moi, en 1992, je faisais beaucoup plus que mon âge. J'ai toujours été un grand amateur de films. Durant les années 1980, j'en ai vu beaucoup, seul le plus souvent. Il m'arrivait de piquer du nez devant Heathers, par exemple. Celui-là était complètement soporifique. Mais je tenais généralement jusqu'au bout, même raide défoncé, surfant sur les bruits, les couleurs et toutes ces femmes en tenue légère trop belles pour être vraies. Les livres aussi, c'est bien, et j'en lis pas mal. La télé, ça passe si t'es coincé dans un motel par un jour de pluie. Mais pour Jamie Morton, rien n'a jamais remplacé un film sur grand écran. Juste moi, mon popcorn et mon coca géant. Et ma dose d'héroïne, bien sûr. Je prenais une deuxième paille sur le comptoir, je la sectionnais en deux avec les dents et m'en servais pour sniffer la poudre sur le dos de ma main. Je ne suis passé à la seringue qu'en 1990 ou 1991, mais j'y suis passé quand même, comme la plupart d'entre nous, croyez-moi. Ce que je trouve le plus chouette dans les films, c'est ce passage fluide du temps. Vous pouvez démarrer avec un ado paumé, pas d'amis, pas d'argent, des parents minables, et tout d'un coup, il se transforme en Brad Pitt dans la fleur de l'âge. La seule chose qui sépare le dieu du paumé, c'est un petit carton indiquant 14 ans plus tard. C'est malsain de vouloir aller plus vite que le temps, avait l'habitude de nous sermonner ma mère. Généralement, lorsque nous languissions des vacances d'été en plein mois de février ou que nous attendions que Halloween se dépêche d'arriver. Et elle avait probablement raison. Mais je ne peux m'empêcher de penser que de tels sauts dans le temps pourraient être une bonne chose pour les gens qui vivent des vies de merde. Et entre l'avènement du gouvernement Reagan en 1980 et la foire annuelle de Tulsa en 1992, j'ai vraiment vécu une vie de merde. J'ai eu des absences, ça oui, mais jamais annoncées par des petits cartons. J'ai dû vivre chacune des journées de ces années-là, et quand je ne pouvais pas me défoncer, certaines de ces journées ont bien duré 100 heures. Le fondu à l'ouverture se déroule comme suit. Les Cumberlands sont devenus les Heaters, et les Heaters sont devenus les J-Tones. Notre dernier concert en tant que groupe universitaire a été le géant et hilarant bal de fin d'année 1978 au Memorial Gym. On a joué de 20h à 2h du matin. Peu de temps après, Jay Peterson a engagé une chanteuse locale populaire qui savait aussi jouer du sax, ténor et alto comme personne. Elle s'appelait Robin Storrs. Elle est devenue un élément essentiel du groupe et au mois d'août, les J-Tones sont devenus les Robin and the Jays. On était l'un des groupes vedettes du Maine. On décrochait un maximum de dates. La vie était belle. C'est là qu'apparaît le petit carton. 14 ans plus tard, Jamie Morton se réveille à Tulsa. Pas dans un bon hôtel, pas même dans un motel moyen, mais dans un trou à cafards appelé le Fairgrounds Inn. Ce genre d'endroit, c'était l'idée de la classe économique selon Kelly Van Dorn. Il était 11h du matin et le lit était mouillé. Pas étonnant. Quand tu sombres pendant 19h d'affilée, avec un petit coup de main de Madame H., mouiller ton lit est presque inévitable. J'imagine que ça arriverait même si tu mourais dans cette espèce de semi-coma assisté, mais le bon côté des choses, c'est que t'aurais plus jamais à te réveiller dans un caleçon trempé de pisse. J'ai lévité en zombie jusqu'aux toilettes, reniflant, larmoyant, m'extirpant de mon caleçon en chemin. Premier arrêt, ma trousse de rasage. Mais pas pour rafraîchir ma barbe de 3 jours. Mon matos était toujours là, ainsi qu'un sachet à zip contenant quelques grammes. Aucune raison d'imaginer que quelqu'un serait entré par effraction pour voler une si piètre réserve, mais vérifier est une seconde nature chez un junkie. Ceci fait, et plus à faire, je me suis tourné vers la cuvette pour me soulager de l'urine accumulée depuis mon accident nocturne. Là, debout, j'ai réalisé que j'avais laissé passer un truc important. À l'époque, je jouais dans un groupe de country rock, et la veille, on était programmé pour jouer en première partie de Sawyer Brown sur la grande scène Oklahoma à la foire annuelle de Tulsa. Un concert crucial, surtout pour un groupe pas franchement prêt pour Nashville, comme les White Lightning. Balance à 17h, m'avait dit Kelly. Tu seras là, hein? Bien sûr, j'avais répondu. T'inquiète pas. Oups. En sortant des toilettes, j'ai vu un bout de papier plié glisser sous la porte. J'avais une petite idée de ce que le message disait, mais je l'ai ramassé et je l'ai lu, juste pour être sûr. Il était court et pas tendre. J'ai appelé le département de musique. Ils avaient un petit jeune de dispo juste assez bon en rythmique et guitare slide pour nous dépanner. Il a été ravi d'empocher tes $600. Quand tu liras ça, on sera en route pour Wildwood Green. Pense même pas à nous suivre. T'es viré. Sincèrement désolé, mais trop c'est trop. Kelly. P.S. J'imagine que t'en tiendras aucun compte, mais si tu te reprends pas vite en main, tu seras en prison d'ici un an, Jamie. Si t'as de la chance. Mort si t'en as pas. J'ai essayé de fourrer le mot dans ma poche arrière, mais il est tombé sur le tapis vert pelé à la place. J'avais oublié que j'étais nu comme un ver. Je l'ai ramassé, je l'ai jeté dans la corbeille et j'ai jeté un œil par la fenêtre. Le parking du motel était complètement désert à l'exception d'une vieille Ford et de la camionnette déglinguée d'un fermier. L'exploreur du groupe et le fourgon technique que conduisait notre ingénieur du son avaient disparu. Kelly déconnait pas. Ces tapettes de pseudo-musiciens m'avaient planté. Ce qui valait peut-être mieux. Je m'étais souvent dit que si je devais jouer une seule chanson de beuverie et coucherie de plus, je finirais par perdre le peu de raison qui me restait. J'ai décidé en priorité de réserver la chambre pour une nuit de plus. J'avais aucune envie de rester à Tulsa, surtout avec la fête foraine qui battait son plein au bout de la rue, mais j'avais besoin de réfléchir au prochain tournant de ma carrière. J'avais aussi besoin d'un fixe, et si t'es pas capable de trouver quelqu'un pour te vendre de la drogue dans une foire, c'est que tu fais pas trop d'efforts. D'un coup de pied, j'ai expédié le caleçon humide dans un coin. Pour boire pour la femme de chambre, j'ai pensé, sardonique, et j'ai ouvert mon sac. Rien là-dedans que des fringues sales. J'avais l'intention de me trouver une lavrière, encore un truc qui m'était sorti de la tête, mais au moins, c'était des fringues sales, sèches. Je me suis habillé et j'ai attaqué la traversée de l'asphalte lézardé de la cour du motel pour me rendre à la réception. Ma lévitation de zombie se changeant peu à peu en démarche traînante de zombie. Ma gorge me faisait souffrir chaque fois que je déglutissais. Un petit bonus pour compléter les réjouissances. La dame de la réception était une fille du cru d'environ 50 piges, le visage dur, vivant présentement sa vie sous un volcan de cheveux rouges crêpés. Sur sa petite télévision, un animateur de talk show bavassait avec Nicole Kidman. Au-dessus de la télé, il y avait un calendrier avec Jésus apportant un chiot à un petit garçon et une petite fille. Ça m'étonnait pas du tout. Les habitants de l'Amérique profonde ont tendance à confondre le petit Jésus et le Papa Noël. « Votre groupe a déjà quitté l'hôtel », me dit-elle après avoir retrouvé mon nom dans son registre. Elle avait l'accent du pays, qui nasillait comme un banjo mal accordé. « Parti il y a environ 2 heures. Ils ont dit qu'ils rejoignaient la Caroline du Nord. »« Je sais », j'ai répondu. « Je fais plus partie du groupe. » Elle a levé un sourcil. « Divergence artistique », j'ai dit. Le sourcil est monté plus haut. « Je vais rester une nuit de plus. Ok. Liquide ou carte de crédit ?» J'avais à peu près $200 sur moi, mais cet argent était réservé à la cam que je comptais m'acheter à la foire. Alors je lui ai donné ma Bank AmeriCard. La bonne femme a appelé ma banque et attendu. Le téléphone coincé entre son oreille et une épaule charnue, les yeux maintenant rivés sur une pub pour de l'essuie-tout apparemment capable d'absorber des débordements liquides de la taille du lac Michigan. J'ai regardé avec elle. Quand le talk show est revenu, Tom Selleck avait rejoint Nicole Kidman et la hockey pur jus était toujours en attente. Ça semblait pas la déranger, mais moi oui. Les démangeaisons avaient commencé et ma patte folle me lançait. Juste au moment où arrivait une nouvelle pub, la fille du pays s'est réveillée. Elle a pivoté sur sa chaise, regardé par la fenêtre le ciel bleu féroce de l'Oklahoma et causé brièvement. Puis elle a raccroché et m'a rendu ma carte de crédit. Refusé, ce qui m'inspire pas confiance pour le liquide, en supposant que vous en ayez. Ça, c'était méchant. Mais je lui ai quand même fait mon plus beau sourire. La carte est bonne, ils se sont trompés. Ça arrive tout le temps. Alors, vous allez pouvoir rectifier ça dans un autre motel, m'a-t-elle fait. Rectifier. Quel bien grand mot pour une campagnarde. Il y en a quatre autres, un peu plus loin, mais ils sont pas terribles. Pas comme ton Ritz-Carlton de Bordeaux Route, j'ai pensé, mais je me suis retenu. Réessayer ? Mon chou, m'a-t-elle répliqué, j'ai qu'à te regarder pour savoir que c'est pas la peine. J'ai éternué, tournant la tête contre la manche courte de mon t-shirt Charlie Daniels Band. C'était pas un problème, vu qu'il n'avait pas été lavé depuis un moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Et qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends que j'ai quitté mon premier mari quand il s'est mis à fumer du crack avec ses deux frères. Sans vouloir te vexer, je sais ce que j'ai devant moi. La nuit dernière a été payée par le groupe, mais maintenant que t'es en solo, comme on dit, tu seras gentil de libérer la chambre à 13h. C'est marqué 15h sur la porte. Elle a pointé un ongle cassé vers une pancarte affichée à gauche du calendrier avec Jésus offrant le chiot. Pendant la foire annuelle, du 25 septembre au 4 octobre, veuillez libérer les chambres à 13h. Il y a une faute à veuiller, je dis. Vous devriez rectifier ça. Elle a regardé la pancarte, puis s'est retournée vers moi. Exact. Mais l'heure indiquée n'a pas besoin de rectification. Elle a consulté sa montre, ce qui te laisse 1h30. M'oblige pas à appeler les flics, mon chou. En période de foire, ils sont plus nombreux que des mouches sur une crotte de chien toute fraîche, et ils rappliqueraient en un rien de temps. Mais c'est n'importe quoi, putain. C'est une période floue de ma vie. Mais je me souviens de sa réponse aussi clairement que si elle me l'avait susurré à l'oreille il y a 2 minutes. Eh non, mon chou, c'est la réalité. Et elle s'est retournée vers sa télé, où maintenant un couillon faisait des claquettes. J'allais pas essayer de toper de la cam en plein jour, pas même à une foire. Alors je suis resté à Fairgrounds Inn jusqu'à 13h30, juste pour emmerder la bouseuse. Et puis j'ai pris mon sac d'une main et mon étui à guitare de l'autre, et je suis parti à pied. J'ai fait un arrêt à une station Texaco, à peu près à l'endroit où North Detroit Avenue devient South Detroit. Je marchais plus, je boitais, en penchant sur bâbord. Quant à ma hanche, elle palpitait au même rythme que les battements de mon cœur. Dans les toilettes pour hommes, je me suis préparé un fixe avec la moitié de la poudre qui me restait, et je me suis piqué au creux de l'épaule gauche. Sensation de volupté immédiate. Mal de gorge et douleur dans la jambe commencèrent à se dissiper. Ma jambe gauche est devenue ma patte folle en 1984 par une belle journée d'été ensoleillée. J'étais sur une Kawasaki. Le vieux connard qui arrivait en face pilotait une Chevrolet de la taille d'un paquebot de croisière. Il a dévié sur ma voie, me laissant 2 options, soit le bas-côté instable, soit la collision frontale. J'ai choisi l'option évidente et réussi à éviter le connard. Mon erreur a été de vouloir me rabattre sur la route à 60 à l'heure. Avis à tous les jeunes motards, se rabattre sur du gravier à 60 à l'heure est une très mauvaise idée. J'ai plié la moto et fracturé ma jambe en 5 endroits. Je me suis aussi bousillé la hanche. Peu de temps après, je découvrais les joies de la morphine. Ma jambe soulagée et les démangeaisons et spasmes musculaires domptés, j'ai pu quitter la station-service avec un regain de vigueur, et le temps que j'arrive à la gare routière Greyhound, je me demandais pourquoi j'étais resté aussi longtemps avec Kelly Van Dorn et son groupe de country à la manque. J'étais pas fait pour jouer des ballades mélo et en do pour l'amour du ciel. J'étais un rocker, moi, pas un cow-boy. J'ai acheté un billet pour Chicago pour le lendemain à midi, ce qui m'a aussi offert le droit de laisser mon sac et ma Gibson SG, mes seuls biens de valeur à la consigne. Le billet m'a coûté 29$. J'ai compté l'argent qui me restait, assis sur les toilettes. 159$, à peu près ce à quoi je m'attendais. L'avenir s'éclaircissait. J'irai toper à la foire, me trouverai un endroit où pieuter, peut-être dans un foyer pour les sans-abri du coin, peut-être dehors, et demain, je mettrai les voiles pour Chicago, dans le ventre du grand lévrier gris. Il y avait une bourse d'échange de musiciens là-bas, comme dans toutes les grandes villes, peuplée de zikos à la recherche de dates, débitant des blagues et échangeant les derniers potins. Certains n'avaient pas la partie facile, les accordéonistes par exemple, mais il y avait toujours des groupes en quête de guitaristes rythmiques compétents, et j'étais un chouïa plus que compétent. En 1992, je pouvais même remplacer la première guitare sur quelques morceaux s'il le fallait. Et si j'étais pas trop défoncé, le plus urgent était d'arriver à Chicago et de décrocher une date avant que Kelly Van Dorn ne balance au monde entier que j'étais pas quelqu'un de fiable, et le soulard en était bien capable. avec au moins 6 heures à tuer avant la nuit, j'ai préparé le reste de ma merde et me la suis carrée là où elle me ferait le plus de bien. Ceci fait, plus à faire, j'ai acheté un western de poche au kiosque à journaux, je me suis assis sur un banc avec le livre ouvert quelque part au milieu et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé dans une série d'éternuements, il était 19 heures et temps pour l'ancien guitariste rythmique des White Lightning de s'en dégoter de la bonne. Quand je suis arrivé à la foire, le coucher de soleil n'était plus qu'une ligne orange acide étirée à l'ouest. Malgré mon intention de garder tout mon argent pour la cam, j'avais dépensé une fortune pour venir en taxi parce que je me sentais pas bien du tout. C'était pas seulement les douleurs et les spasmes musculaires habituels de la descente. Mon mal de gorge était revenu. J'avais un bourdonnement aigu et aigre dans les oreilles et j'avais chaud de partout. Mais ça, je me suis dit que c'était normal, vu que la nuit était brûlante comme une chatte en chaleur. Pour le reste, j'étais certain que 6 ou 7 heures de sommeil suffiraient à me remettre d'aplomb. Je pourrais les rattraper dans le bus. Je voulais être au top de mes capacités avant de réintégrer l'armée du rock'n'roll. J'ai contourné l'entrée principale de la foire, car seul un idiot tenterait d'acheter de l'héroïne sur un marché artisanal ou une exposition de bétail. Plus loin se trouvait l'entrée du Bell's Amusement Park. Ce parc d'attractions adjacent à la foire annuelle de Tulsa n'existe plus aujourd'hui. Mais en septembre 1992, le Bell's marchait du feu de Dieu. Ces deux montagnes russes, le Zingo en bois et le Wildcat, plus moderne, tourbillonnaient, virevoltaient, semant des hurlements de joie à chaque virage en épingle à cheveux et plongeon suicidaire. Il y avait de longues files d'attente devant les toboggans aquatiques, l'Himalaya et le train fantôme Fantasmagoria. J'ai ignoré tout ça et traînassé le long de l'allée centrale et des stands de nourriture, dont les odeurs de fritures et de saucisses, d'ordinaire alléchantes, me retournaient un peu l'estomac. Il y avait un type qui avait la gueule de l'emploi près du stand du lancer d'anneau, et j'ai failli l'aborder, mais en m'approchant, j'ai flairé le coup du flic en civil. Le t-shirt qu'il portait, cocaïne le déjeuner des champions, était juste un peu trop ostentatoire. J'ai poursuivi mon chemin, dépassant le stand de tir, les quilles, le skee-ball et la roue de la fortune. Je me sentais de plus en plus mal, ma peau était de plus en plus chaude et le bourdonnement dans mes oreilles de plus en plus fort. J'avais tellement mal à la gorge que je grimaçais à chaque fois que je déglutissais. Un peu plus loin se profilait le parcours élaboré d'un mini-golf. Les joueurs étaient pour la plupart des adolescents hilars, et je pensais avoir atteint l'épicentre de la fête. Partout où il y avait des ados sortis pour une soirée de plaisir, il y a des dealers, heureux de pouvoir les aider à tirer le maximum de profit du dit plaisir. Et de fait, j'apercevais un ou deux types dont l'allure ne trompait pas. À leur regard fuyant et leurs cheveux sales, vous les reconnaîtrez. Après le mini-golf, l'allée centrale se terminait par un carrefour hanté. D'un côté le champ de foire, de l'autre le champ de course. Je n'avais aucune intention d'aller d'un côté ou de l'autre, mais d'étranges crépitements électriques me parvenaient de la droite, suivis d'applaudissements, de rires et d'exclamations de surprise. En m'approchant du carrefour, je vis que chaque crépitement était accompagné d'un éclair bleu lumineux qui me rappelait la foudre. La foudre à Skytop, pour être parfaitement précis. Je n'y avais pas repensé depuis des années. Quelle que soit l'attraction qu'il proposait, le forain avait rameuté une foule. J'ai décidé que la vermine qui traînait autour du parcours de golf pouvait attendre quelques minutes. Les types comme ça ne partent jamais avant qu'on éteigne les néons, et je voulais voir qui fabriquait des éclairs par cette chaude et claire nuit d'Oklahoma. J'entendis une fois amplifié s'écrier « Et maintenant que vous avez vu les pouvoirs de ma machine à éclairs, unique au monde, je peux vous le garantir !» Place à une démonstration réelle du fantastique portrait que vous pourrez troquer contre celui d'Alexander Hamilton, sorti de votre portefeuille ou de votre sac à main. Une démonstration extraordinaire avant que j'ouvre mon studio électrique et vous offre l'opportunité de prendre place pour la représentation photographique de votre vie. Mais j'ai besoin d'un volontaire pour que vous voyez exactement ce que vous obtiendrez pour les 10 dollars que vous n'aurez jamais mieux dépensés. Un volontaire ? Puis-je avoir un volontaire, s'il vous plaît? C'est absolument sans danger, je vous le garantis. Allez, mes amis, j'ai toujours entendu dire que les Sooners sont réputés à travers nos 48 États pour leur courage. Une foule de bonne taille, 50 ou 60 personnes étaient rassemblées devant une scène surélevée. Sur la toile de fond, large de 2 mètres et haute d'au moins 6, figurait une photo presque aussi grande qu'une image sur un écran de cinéma. Elle représentait une belle jeune femme en robe du soir, en pied, dans ce qui ressemblait à une salle de bal. Sa chevelure noire était rassemblée sur le sommet de sa tête en une kyrielle de boucles et d'entortillements compliqués qui avaient dû prendre des heures à réaliser. Le décolleté plongeant de sa robe bustier laissait voir le galbe délicatement renflé de ses seins. Elle portait des boucles d'oreilles en diamant et du rouge à lèvres carmin. Un appareil photo rétro, style 19e siècle, posé sur un trépied et disposant d'un drap noir que le photographe pouvait passer par-dessus sa tête, faisait face à l'immense fille en tenue de bal. Placé comme il l'était, on aurait dit qu'il ne pouvait photographier la fille qu'à partir des genoux seulement. À côté, posé sur une console, il y avait un plateau rempli de poudre flash. Le forain en redingote noire et chapeau haute forme avait une main nonchalamment posée sur l'appareil, et je le reconnus aussitôt. Tout cela est très clair, mais mon souvenir de ce qui se passa ensuite n'est pas fiable, je l'admets. J'étais un junkie de longue date, passé à la seringue 2 ans auparavant, me piquant seulement la peau pour commencer, puis visant de plus en plus fréquemment la veine. J'étais mal nourri et sévèrement amaigri. Pour couronner le tout, j'avais de la température. C'était la grippe, et elle m'était tombée dessus d'un seul coup. En me levant le matin, j'avais cru renifler à cause de l'héroïne, classique, ou d'un rhume dans le pire des cas. Mais le temps que j'arrive devant cette fille géante, avec portrait à la foudre écrit au-dessus, et que je vois Charles Jacobs posté à côté d'un appareil photo à l'ancienne sur trépied, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Ça ne me surprit pas de voir mon ancien pasteur, des touches de gris aux tempes et des rides légères au coin des lèvres, mettant sa bouche entre parenthèses. Ça ne m'aurait pas surpris non plus si ma mère et ma sœur défunte l'avaient rejoint sur scène en costume de lapine de Playboy. Quelques hommes levèrent la main à l'appel involontaire de Jacobs. Mais celui-ci rit et désigna la splendide jeune fille le dominant de toute sa taille. « Messieurs, je suis certain que vous êtes aussi courageux que le diable le samedi soir, mais le bustier ne vous irait pas. » Des rires bon enfant accueillirent la plaisanterie. « Je veux une demoiselle, » dit l'homme qui m'avait montré le lac de la paix, quand je n'étais encore qu'un môme en culotte courte. « Je veux une jolie demoiselle, une jolie sooner, une vraie fille de l'Oklahoma. Qu'en dites-vous, les amis? Ça vous plaît comme idée ?» Ils applaudirent pour montrer à quel point l'idée leur plaisait. Et Jacobs, qui avait sûrement déjà choisi sa cible, pointa son micro sans fil sur quelqu'un au premier rang. « Et vous, mademoiselle, vous êtes aussi jolie qu'on peut l'être. » Je me trouvais à l'arrière de la foule, mais les gens semblaient s'écarter sur mon passage comme si j'étais possédé d'une force de répulsion magique. Il est probable que je jouais seulement des coudes, mais ce n'est pas le souvenir que j'en ai. Et si je recevais des coups de coude en retour, je ne m'en souviens pas non plus. J'avais l'impression d'avancer en flottant. Toutes les couleurs étaient plus vives à présent, et plus fort la musique d'orgue de Barbarie du carrousel et les hurlements en provenance du Zengo. Le bourdonnement dans mes oreilles s'était aggravé pour atteindre le niveau d'un sifflement mélodieux. Sol septième, je crois. J'évoluais dans une atmosphère aromatique de parfums, d'après-rasage et de lacs bon marché. La jolie petite Sooner protestait, mais ses amis ne voulaient rien entendre. Elles la poussèrent vers l'avant, et la fille monta les marches à gauche de la scène, ses jambes bronzées, brillant sous sa mini-jupe en jean à l'ourlet effiloché. En haut, elle portait une blouse verte à col montant, mais qui laissait coquettement dénuder quelques centimètres de ventre au niveau du nombril. Elle avait de longs cheveux blonds. Quelques hommes sifflèrent. « Toutes les jolies filles sont électriques !» lança Jacobs à la foule. Et d'un moulinet, il ôta son chapeau haute forme. Je le vis crisper la main qui le tenait. L'espace d'un instant, je ressentis des sensations que je n'avais plus ressenties depuis ce jour à Skytop. Mes bras parcourus de frissons, les poils de ma nuque au garde-à-vous, l'air trop lourd dans mes poumons. Et puis, quelque chose qui n'était certainement pas de la poudre à flash s'embrasa sur le plateau, posé à côté de l'appareil photo, et la toile de fond s'illumina d'un éclat bleu éblouissant. Le visage de la fille en robe du soir fut oblitéré. Alors que l'éblouissement se dissipait peu à peu, je vis, ou crus voir, surgir à sa place la femme aux cheveux rouges qui m'avait foutu à la porte du Fairgrounds Inn, quelques 9 heures plus tôt. Puis, la fille en robe décolletée à paillettes réapparut. La foule était estomaquée, et moi aussi. Mais je n'étais pas complètement étonné. C'était le révérend Jacobs et ses bons vieux trucs. Voilà tout. Je ne fus pas plus étonné lorsqu'il passa son bras autour de la taille de la fille et la fit pivoter vers nous et que, l'espace d'un instant, je crus voir Astrid Soderbergh, 16 ans à nouveau et inquiète à l'idée de tomber enceinte. Astrid, qui me soufflait parfois la fumée de ses Virginia Slims dans la bouche, me filant la gaule la plus dure de tous les temps. Puis elle redevint simplement une jolie petite Sooner débarquée de sa ferme pour une soirée de fête à la ville. L'assistant de Jacobs, un jeune boutonneux aux cheveux mal coupés, rappliqua en trottinant avec une chaise en bois ordinaire. Il la posa devant l'appareil photo et s'employa de façon clownesque à épousseter la redingote surannée de Jacobs. « Asseyez-vous, ma jolie, » dit Jacobs, en conduisant la fille vers la chaise. « Je vous promets un divertissement de choc. » Il fit frétiller ses sourcils, et son jeune assistant fut comme parcouru de décharges électriques. Le public rit de bon cœur. Les yeux de Jacobs me trouvèrent, j'étais maintenant au premier rang, me dépassèrent, puis revinrent sur moi. Après une seconde d'observation, ils se détournèrent à nouveau. « Ça va faire mal ?» demanda la fille. Elle ne ressemblait pas du tout à Astrid, finalement. Bien sûr que non. Ma première copine était forcément plus âgée maintenant. Et où qu'elle se trouvât, son nom de famille n'était certainement plus Soderbergh. Pas du tout, la rassura Jacobs. Et contrairement aux autres demoiselles qui auront le courage de s'avancer ensuite, votre portrait sera... Il détourna la tête pour regarder le public, et moi directement cette fois-ci. Entièrement gratuit. Il installa la fille sur la chaise, tout en continuant son baratin, mais il avait l'air un peu hésitant maintenant, comme s'il avait perdu le fil. Il continuait de me lancer des regards furtifs pendant que son assistant nouait un foulard de soie blanc devant les yeux de la fille. S'il était distrait, la foule ne le remarqua pas. Une petite mignonne était sur le point de se faire photographier au pied d'une beauté géante, les yeux bandés, rien que ça, et tout ça était fort intéressant. Sans compter que la vraie fille exhibait de jolies gambettes et celle de la toile de fond un joli décolleté. « Qui voudrait ?» commença la jolie fille, et Jacob s'empressa de placer le micro devant elle, de sorte que tout le public puisse entendre sa question. « D'une photo de moi, les yeux bandés. »«
Il n'y a pas que tes yeux qui sont bandés, poupée !» cria quelqu'un.
Et la foule, bon enfant, s'esclaffa. La fille sur la chaise serra bien fort ses cuisses l'une contre l'autre, mais elle souriait tout de même un peu. Le sourire de la bonne joueuse. «
Ma chère, je crois que vous allez être surprise, » dit Jacobs.
Il se tourna pour s'adresser au public. « L'électricité ! Ça nous paraît banal, or c'est la plus grande merveille naturelle de notre monde. C'est le fondement de notre civilisation moderne. La grande pyramide de Gizeh est une fourmilière à côté. » Certains prétendent la comprendre, mesdames et messieurs, mais nul ne comprend l'électricité secrète, cette force qui lie l'univers lui-même en un tout harmonieux. Est-ce que moi je la comprends? Non, pas entièrement. Et pourtant, je connais son pouvoir de destruction et de guérison. Son pouvoir créateur de beauté magique. Quel est votre nom, mademoiselle?
Cathy Morse.
Cathy? Il existe un vieil adage qui dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Vous, moi et vous tous ici présents ce soir, allons être témoins de la véracité de ce dicton. Et vous repartirez, chère Cathy, avec un portrait que vous pourrez montrer à vos petits-enfants. Un portrait qu'ils pourront eux-mêmes montrer à leurs petits-enfants. Et si ces ancêtres à venir ne s'en émerveillent pas, alors je ne m'appelle plus Dan Jacobs.
« Mais tu t'appelles pas Dan Jacobs, ai-je pensé. »
Je me balançais d'avant en arrière à présent, comme au rythme de l'orgue et de la musique que j'avais dans les oreilles. J'essayais d'arrêter, mais je ne pouvais pas. J'avais une étrange sensation de masse charnue dans les jambes, comme si mes os en étaient extraits centimètre par centimètre.
« Tu t'appelles Charles, pas Dan. Tu crois que je reconnais pas l'homme qui a rendu sa voix à mon frère ?
Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous suggère de vous protéger les yeux. » D'un geste théâtral, l'assistant s'exécuta. Jacobs virevolta, souleva le drap noir fixé à l'arrière de l'appareil photo et disparut en dessous.
Fermez les yeux, Cathy, cria-t-il. Même avec le foulard, une impulsion électrique aussi puissante peut éblouir. Je vais compter jusqu'à trois. Un, et deux, et trois. À nouveau, je ressentis cet étrange épaississement de l'air, et je ne fus pas le seul. La foule recula d'un pas ou deux. S'ensuivit un clic sonore, comme si quelqu'un venait de claquer des doigts juste à côté de mon oreille droite. Le monde s'embrasa dans une explosion de lumière bleue. « Ah !» fit la foule. Et lorsque les gens purent voir à nouveau et s'aperçurent de la métamorphose de la toile de fond, « Ah !» La robe du soir était la même, grise décolletée à paillettes. Le galbe séducteur des seins était le même, tout comme la coiffure sophistiquée. Mais la poitrine était à présent plus menue et la chevelure blonde au lieu de noire. Le visage aussi avait changé. C'était Cathy Morse qui se tenait là, debout dans la salle de bal. Et puis, j'ai cligné des yeux et la jolie petite Sooner disparut. Ce fut à nouveau Astrid. Astrid telle qu'elle était à 16 ans. L'amour de mes jours et la convoitise enfin assouvie de mes nuits. La foule exhala un petit soupir d'étonnement et il me vint cette idée à la fois folle et convaincante. Eux aussi voyaient quelqu'un surgir des pages de leur passé, un proche disparu ou transformé par le passage fluide du temps. Puis ce fut de nouveau Cathy Morse, mais ça n'en était pas moins stupéfiant. Une Cathy Morse de 6 mètres de haut, dans le genre de robe hors de prix qu'elle ne posséderait jamais dans la vraie vie. Les boucles d'oreilles en diamant étaient là, et bien que le rouge à lèvres de la fille assise sur la chaise fût rose bonbon, celui de la Cathy géante, derrière elle, était rouge vif. Aucune trace du foulard de soie non plus. Le bon vieux révérend Jacobs, dans toute sa splendeur, ai-je pensé. Mais il a appris des tours bien plus tape à l'œil que le Jésus électrique, marchant sur le lac de la paix ou qu'une ceinture en tissu avec un moteur de jouet à l'intérieur. Il jaillit de sous le drap noir, le rejeta en arrière et retira une plaque de l'arrière de l'appareil. Il la montra au public qui poussa de nouveau un grand « Ah !» Jacob s'inclina, puis se tourna vers Cathy, qui paraissait drôlement perplexe. Il brandit la plaque devant elle et dit « Vous pouvez retirer votre bandeau, Cathy. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. » Elle fit glisser le foulard vers le bas de son visage et vit l'image imprimée sur la plaque. Une petite Américaine de l'Oklahoma, incroyablement métamorphosée en demi-mondaine parisienne. Elle porta ses mains à sa bouche, mais Jacobs avait déjà approché le micro, et tout le monde put entendre son « Oh mon Dieu !» Et maintenant, « Retournez-vous !» cria Jacobs. Elle se leva, se retourna, regarda et chancela à la vue d'elle-même, haute de 6 mètres, et éblouissante dans sa tenue de luxe. Jacobs passa un bras autour de sa taille pour la retenir. La main qui tenait le micro et qui dissimulait au passage un mécanisme télécommandé se crispa de nouveau, et cette fois, la foule fit plus que s'exclamer. On entendit aussi plusieurs cris aigus. La Cathy Morse géante tourna lentement sur elle-même à la manière d'un modèle de haute couture, dévoilant le dos de la robe, bien plus échancrée que le devant. Elle regarda par-dessus son épaule et cligna de l'œil. Jacobs n'avait pas négligé le micro. Son numéro était clairement bien rodé. Et la remarque suivante de la vraie Cathy porta aussi distinctement que la précédente jusqu'à l'arrière de la foule. « Oh putain de Dieu !» Les gens rirent et applaudirent. Et quand elle devint toute rouge, ils redoublèrent d'applaudissements. Au-dessus de Jacobs et de la fille, la Cathy géante était en train de se transformer. Les cheveux blonds redevenaient foncés. Les traits s'estompaient, même si le rouge à lèvres carmin, lui, ne changeait pas comme le sourire du chat du Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles. Puis ce fut de nouveau la photo originale. L'image de Cathy Morse s'était progressivement estompée avant de disparaître. Mais cette version-là ne disparaîtra jamais, dit Jacobs, en brandissant de nouveau la plaque photographique à l'ancienne. Mon assistant se chargera de l'imprimer et de l'encadrer, et vous pourrez passer la récupérer avant de rentrer chez vous ce soir. « Attention, l'artiste !» cria quelqu'un au premier rang. « La petite va s'évanouir !» mais elle n'en fit rien. Elle tangua juste un peu sur ses pieds. Ce fut moi qui m'évanouis. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un grand lit, deux places, une couverture remontée jusqu'au menton. Quand j'ai regardé à droite, j'ai vu une paroi en faux lambris. À gauche, un joli coin cuisine, frigo, évier, four à micro-ondes. Plus loin, il y avait une banquette, une petite table à manger avec quatre chaises et même un coin salon avec un fauteuil installé en face d'une télé intégrée. Je ne pouvais pas tendre suffisamment le cou pour voir la cabine, mais en tant que musicien itinérant, ayant parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à bord de pareils engins, même si peu étaient aussi nickels que celui-ci, je savais quand même où je me trouvais. Dans un camping-car géant, probablement un Bounder. Le chez-soi de quelqu'un loin de chez lui. J'avais chaud, je brûlais même, j'avais la bouche plus sèche que la poussière du chemin. Et j'étais aussi en manque, putain. J'ai repoussé la couverture et commencé immédiatement à frissonner. Une ombre est tombée sur moi. C'était Jacobs, me tendant une chose merveilleuse. Un grand verre de jus d'orange avec une paille pliée qui en sortait. Une seringue remplie aurait été encore mieux, mais chaque chose en son temps. J'ai tendu la main vers le verre. Il remonta d'abord la couverture, puis posa un genou près du lit. « Doucement, Jamie. Je crains que tu ne sois un Américain bien mal fichu. » J'ai bu. Sensation merveilleuse dans ma gorge. J'ai essayé d'attraper le verre pour me l'enfiler d'une traite, mais il l'éloigna de moi. J'ai dit doucement. J'ai laissé retomber ma main et il me fit boire une autre gorgée. Ça descendait tout seul. Mais à la troisième gorgée, j'ai eu une crampe d'estomac et les frissons m'ont repris. Ça, c'était pas la grippe. J'ai besoin d'un fixe, j'ai dit. C'était pas tout à fait les retrouvailles que j'aurais souhaité avoir avec mon ancien pasteur et mon premier ami adulte, mais un camé en manque n'a aucune honte. En plus, lui aussi avait peut-être quelques secrets à cacher. Pourquoi se faire appeler Dan Jacobs au lieu de Charles, sinon? « Oui, dit-il, j'ai vu les traces de piqûres. Et j'ai l'intention de te procurer ce dont tu as besoin, du moins jusqu'à ce que tu te sois débarrassé du virus que tu as attrapé. Sinon, tu vas te mettre à vomir tout ce que j'essaie de te faire manger. Et on ne veut pas de ça, n'est-ce pas? Pas alors qu'il a l'air de te manquer au moins 25 kilos sur les os. » Il sortit un flacon marron de sa poche. Une petite cuillère était fixée au bouchon. J'ai tendu la main. Il secoua la tête et l'éloigna de moi. « Idem, c'est moi qui administre les doses. » Il dévissa le bouchon du flacon, plongea la cuillère dedans et en ressortit une minuscule quantité de poudre blanchâtre qu'il me mit sous le nez. Je l'ai sniffé par la narine droite. Il renouvela l'opération et j'ai soigné la narine gauche. C'était pas ça dont j'avais besoin, pas suffisamment de ce dont j'avais besoin, pour être plus exact. Mais les frissons commencèrent à se calmer, tout comme mon envie de gerber le bon jus d'orange frais. « Maintenant tu peux piquer un somme, dit-il. Ou te laisser planer, c'est selon. Je vais te faire chauffer un bouillon de poule. Juste une boîte de Campbell, rien comparé à celui que faisait ta mère, mais c'est tout ce que j'ai. » « Je sais pas si je vais pouvoir manger, j'ai dit. Mais il s'avéra que si. Quand j'ai terminé le bol de soupe qu'il me tenait, j'ai réclamé un peu plus de cam. Il m'administra deux misérables doses. « Où vous l'avez eu ?» j'ai demandé alors qu'il remettait le flacon dans la poche avant du jean contre lequel il avait troqué son habit de scène. Il sourit. Son sourire illumina son visage et il eut soudain 25 ans à nouveau, une femme qu'il aimait et un fils qu'il adorait. « Jamie, me dit-il, « je travaille sur les parcs d'attractions et le circuit forain depuis un sacré bail maintenant. Si je suis pas capable de trouver de la drogue, c'est que je suis aveugle ou idiot. J'ai besoin de plus, j'ai besoin d'un fixe. Non, tu as envie d'un fixe, et ne compte pas sur moi pour ça. Je n'ai aucun intérêt à te maintenir dans cet état. Je n'ai tout simplement pas envie de te voir convulser et mourir dans mon baroudeur. Dors maintenant, il est presque minuit. On discutera de ça demain, si tu te sens mieux. Et d'un tas de choses, y compris comment décrocher le singe que tu as sur le dos. Si ça ne va pas mieux, je t'emmène à Saint Francis ou au centre médical de l'université. Bonne chance à vous, Ils me prendront jamais, j'ai dit. Je suis quasi fauché et mon assurance maladie, c'est le Tylenol de la supérette du coin. Pour reprendre les mots de Scarlett O'Hara, on se souciera de ça demain, car demain est un autre jour. Bla bla bla, croissais-je. Si tu le dis. Donnez-moi un peu plus. Les microdoses qu'il m'avait accordées m'avaient fait autant d'effet qu'une Marlboro Light à un type qui aurait enchaîné les Chesterfield King toute sa vie. Mais même ça, c'était mieux que rien. Il réfléchit un instant, puis m'en administra deux autres, encore plus misérables que les précédentes. « Donner de l'héroïne à un homme qui a une méchante grippe, » dit-il, et il gloussa. « Je dois être fou. » J'ai glissé un œil sous la couette et vu qu'il m'avait déshabillé complètement, à part mon caleçon. « Où sont mes vêtements ?»« Dans le placard, à l'écart des miens. Excuse-moi, il sentait un brin le gibier. » « Il y a mon portefeuille dans la poche avant de mon jean. Il y a le ticket de consigne pour mon sac et ma guitare dedans. Mes fringues, c'est pas important, mais ma guitare, si. Bus ou gare ?»« Bus. »
La cam avait beau n'être que de la poudre et administrée en quantité homéopathique, mais soit c'était de la très bonne, soit elle montait dans mon corps carencé sacrément vite et fort. La soupe était chaude dans mon ventre et mes paupières se fermaient toutes seules. « Dors, Jamie. » me dit-il, et il me pressa doucement l'épaule. « Si tu veux guérir, il faut dormir. » J'ai laissé ma tête s'enfoncer dans l'oreiller. Il était bien plus moelleux que celui du Fairgrounds Inn. « Pourquoi vous vous faites appeler Dan ?»« Parce que c'est mon nom. Charles Daniel Jacobs. Dors maintenant. » J'allais m'endormir, mais j'avais une autre question. Les adultes changent, bien sûr. Mais s'ils ne sont pas frappés par une quelconque maladie dégénérative ou défigurés par un accident, on arrive généralement à les reconnaître. Les enfants, en revanche... Vous m'avez reconnu, je l'ai vu. Mais comment? Parce que ta mère vit dans ton visage, Jamie. J'espère que Laura va bien. Elle est morte. Claire aussi. J'ignore comment elle a réagi. J'ai fermé les yeux et 10 secondes plus tard, je dormais. Quand je me suis réveillé, j'étais moins brûlant, mais les frissons étaient revenus à la charge. Jacobs posa une languette thermomètre sur mon front. Il laissa une minute ou deux, puis hocha la tête. « Tu vas peut-être t'en sortir, » me dit-il. Et il me donna 2 minuscules doses supplémentaires. « Tu crois que tu peux te lever et venir manger un peu d'œufs brouillés ?»« Toilette d'abord. » Il m'indiqua la direction, et j'ai tangué jusqu'au petit cabinet en m'accrochant au mobilier. J'avais juste envie de pisser, mais j'étais trop faible pour me tenir debout. Alors je me suis assis comme une fille. Quand je suis ressorti, Jacobs remuait les œufs en sifflant. Mon ventre gargouillait. J'essayais de me rappeler la dernière fois que j'avais mangé quelque chose de plus consistant que de la soupe en boîte. Assiette anglaise, en coulisses, avant le concert d'il y avait 2 jours, fut tout ce qui me revint à l'esprit. Si j'avais mangé quoi que ce soit d'autre, depuis, je ne m'en souvenais pas. « Mange lentement, » me dit-il, en posant l'assiette sur la petite table du coin repas. « Ce serait dommage de tout régurgiter illico, n'est-ce pas ?» J'ai mangé lentement et presque léché l'assiette. Il buvait du café, assis en face de moi. Quand je lui en ai demandé un peu, il m'en a servi la moitié d'une tasse, avec plus de lait que de café. « Le tour de magie avec la photo, » j'ai dit. « Vous avez fait comment ?»« Tour de magie ?» « Tu me blesses !» L'image sur la toile de fond est recouverte d'une substance phosphorescente. L'appareil photo sert également de générateur électrique. J'ai pigé tout ça. Le flash est très puissant et très... spécial. Il projette l'image du sujet sur celle de la fille en robe de soirée. Elle n'y reste pas longtemps. La zone à couvrir est trop grande. Les photos que je vends, en revanche, durent bien plus longtemps. Assez longtemps pour qu'elles puissent les montrer à leurs petits-enfants ? Vraiment ? Eh bien, dit-il, non. Combien de temps ? 2 ans, à peu près. Et à ce moment-là, vous êtes parti depuis longtemps. En effet. Et les photos qui importent ? Il se tapota la tempe. Elles sont là, pour nous tous. N'es-tu pas d'accord ? Mais, révérend Jacobs... J'ai vu momentanément ressurgir l'homme qui avait prêché le terrible sermon du temps que LBJ était président.
s'il te plaît. Ne m'appelle pas comme ça. Dan, ça ira très bien. C'est Dan que je suis maintenant. Dan, le type des portraits à la foudre. Ou Charlie, si tu préfères. Mais elle s'est retournée. La fille sur votre toile, elle a fait un tour complet sur elle-même. Simple technique de projection cinématographique. Mais il détourna le regard en disant ça. Puis il me regarda à nouveau. « Tu veux aller mieux, Jamie ?»« Je vais mieux. J'ai dû choper un petit virus de rien du tout. » »« C'est pas un petit virus de rien du tout, c'est la grippe. Et si tu essaies de filer à la gare, elle sera revenue en force à midi. Reste ici. Et oui, je pense que tu pourras aller mieux d'ici quelques jours. Mais ce n'est pas de la grippe que je parle. »« Je vais bien, j'ai dit. » Mais c'était moi qui regardais ailleurs maintenant. C'est le petit flacon marron qui ramena mon attention bien au centre. Il le tenait par la cuillère qui y était fixée et le balançait au bout de sa petite chaîne en argent, telle une amulette d'hypnotiseur. Je me suis penché pour l'attraper. Il l'écarta vivement. « Depuis combien de temps tu en prends ?»« De l'héros ? À peu près 3 ans ?»« Ça faisait 6 ans. »« J'ai eu un accident de moto. » Je me suis complètement bousillé la jambe et la hanche. Ils m'ont mise sous morphine. Évidemment. Puis m'ont ramené à la codéine. Ça me faisait que dalle. Du coup, j'ai commencé à m'enfiler du sirop pour la toux avec les cachets. Hydrate de terpine, vous connaissez? Tu rigoles. Sur le circuit, ils appellent ça le GI Gin. Ma jambe a guéri, mais jamais bien guéri. Et puis, il y a eu ce gars qui m'a fait connaître le Tussionex. J'étais dans un groupe qui s'appelait les Andersonville Rockers, ou peut-être qu'ils avaient déjà changé pour les Georgia Giants. Ça m'a bien aidé, pour la douleur en tout cas. Écoutez, vous avez vraiment envie d'entendre tout ça?
Absolument.
J'ai haussé les épaules comme si ça m'était égal, mais c'était un soulagement pour moi de tout lâcher. Je n'en avais jamais parlé avant ce jour-là, dans le Bounder de Jacobs. Dans les groupes avec lesquels je jouais, tout le monde se contentait de hausser les épaules en regardant ailleurs. Tant que je continuais à me pointer, bien sûr, et que je me rappelais les accords de « In the Midnight Hour », ce qui, croyez-moi, n'est pas bien sorcier. C'est un autre sirop pour la toux, plus puissant que l'hydrate de terpine. Mais seulement si on sait comment en extraire la bonne substance. Pour ça, il faut accrocher une ficelle autour du goulot de la bouteille et la faire tourner comme un dingue. La force centrifuge sépare le sirop en 3 couches. Le plus efficace, l'hydrocodone, est au milieu. On le boit avec une paille. Fascinant. Pas vraiment, j'ai pensé. Au bout d'un moment, vu que je souffrais encore, j'ai recommencé à choper de la morphine. Puis j'ai découvert que l'héroïne marchait aussi bien, pour moitié moins cher. J'ai souri. Il existe une espèce de marché boursier de la drogue, vous savez. Quand tout le monde s'est mis à prendre du crack, le prix de la hache s'est effondré.
Ta jambe m'a l'air bien, dit-il paisiblement. Tu as une vilaine cicatrice et tu as visiblement perdu du muscle, mais pas tant que ça. Il y a un toubib qui a fait du bon travail sur toi.
Je peux marcher, oui, mais essayez pour voir de tenir debout sur une jambe pleine de vis et de pinces en métal pendant 3 heures tous les soirs, sous la chaleur des projecteurs et avec une guitare de 5 kilos en bandoulière. Faites-moi la morale tant que vous voulez. Vous m'avez ramassé quand j'étais au plus bas, je suppose que je vous en suis redevable. Mais venez pas me parler de douleur physique. On ne peut pas savoir tant qu'on ne le vit pas. »
Il hocha la tête.
« Non, mais ayant connu la douleur, du deuil, je peux m'identifier à ça. Laisse-moi te dire une chose que tu sais certainement déjà au plus profond de toi. C'est ton cerveau qui souffre et qui fait porter le chapeau à ta jambe. Le cerveau est malin pour ça. » Il remit le flacon dans sa poche. Je l'ai regardé disparaître avec un profond regret et se pencha en avant, ses yeux rivés aux miens. « Mais je crois pouvoir m'occuper de toi avec un traitement électrique. Aucune garantie, et le traitement ne permettra peut-être pas de te guérir de ta dépendance mentale pour toujours. Mais je crois que je peux te donner ce que les footballeurs appellent de l'espace de jeu. »
« Comme vous l'avez fait avec Ronnie, j'imagine, quand son copain lui a fait une cravate avec son bâton de ski ?»
Il parut surpris, puis rit.
« Tu te souviens de ça ?»«
Bien sûr que je m'en souviens. Comment oublier ?» Je me souvenais aussi que Connie avait refusé de m'accompagner voir Jacobs après le terrible sermon. Ce n'était pas exactement comme Pierre reniant Jésus, mais c'était du même tonneau. Une cure incertaine au mieux, Jamie. Plus vraisemblablement, l'effet placebo. Ce que je te propose,
c'est une vraie cure, un traitement qui, du moins ce que je crois, court-circuitera le processus douloureux du sevrage. Ben, évidemment, vous n'allez pas dire le contraire, hein? Tu me juges sur mon personnage de foire, mais ce n'est rien d'autre que ça, Jamie. Un personnage. Quand je ne suis pas en costume de scène, en train de gagner ma vie, j'essaye de dire la vérité. En réalité, c'est ce que je fais aussi dans mon travail. Cette photo épatera les amis de Mademoiselle Kathy Morse. Ouais, dis-je, pendant 2 ans, à peu près. Cesse d'esquiver le problème et réponds à ma question. Est-ce que tu veux aller mieux, oui ou non? Le post-scriptum du mot que Kelly Van Dorn avait glissé sous ma porte me revint à l'esprit. « En prison d'ici 1 an, si je me reprenais pas en main », avait-il écrit. Et ça, c'était si j'avais de la veine. J'ai été clean il y a 3 ans. Presque vrai, même si j'étais sous marijuana thérapeutique. J'ai tout fait dans les règles de l'art. Suis passé par les tremblements, les sueurs et les diarrhées incontrôlées. Ma jambe était tellement abîmée que je pouvais à peine clopiner. Des lésions neurologiques, apparemment. Je pense pouvoir régler ça aussi. Vous êtes quoi, au juste? Une espèce de faiseur de miracles? C'est ça que vous voulez me faire croire? Il se leva. Suffit pour le moment. Il faut que tu dormes. Tu es encore loin d'aller mieux. Alors donnez-moi quelque chose pour m'y aider. Il le fit, sans rechigner. Et ça m'aida un peu. Pas assez. En 1992, ce qui m'aidait vraiment sortait de la seringue. Il n'y avait rien d'autre. On fait pas disparaître cette merde d'un coup de baguette magique, que je croyais. Je suis resté dans son bounder pendant presque 1 semaine, vivant de soupe, de sandwich et de doses d'héroïne administrées par voie nasale, juste ce qu'il fallait pour tenir le plus gros des tremblements en échec. Il me rapporta mon sac et ma guitare. Je gardais toujours un kit de rechange dans mon sac, mais quand j'ai regardé, c'était la 2e nuit et Jacobs bonimentait les foules sur son stand des portraits à la foudre. Mon kit avait disparu. Je l'ai supplié pour qu'il me le rende, avec juste assez d'héroïne pour que je puisse me préparer un shoot. « Non, me répondit-il. Si tu veux te piquer, je pique juste la peau, pas la veine. » Il m'adressa le regard de celui qui n'est pas tombé de la dernière pluie. « Si c'est ça que tu veux, tu devras trouver le matériel adéquat toi-même. Si tu ne te sens pas d'aller le chercher ce soir, tu le sauras demain. Et dans le coin, je suis sûr que ça ne te prendra pas longtemps. » Mais ne remets plus les pieds ici. Quand est-ce que j'aurai droit à cette soi-disant cure miracle? Quand tu seras suffisamment en état pour supporter une petite décharge électrique au niveau du lobe frontal. Ça m'a refroidi. J'ai balancé les jambes hors de son lit. Lui dormait sur la banquette amovible. Je l'ai regardé enlever ses habits de scène, les suspendre soigneusement et enfiler un pyjama de coton blanc qui ressemblait à ce que pourraient porter les internés d'un asile de fous dans un film d'horreur. Je me suis parfois demandé si sa place n'était pas dans un asile, et pas parce qu'il donnait dans ce qui, essentiellement, était de la féerie de foire bidon. Parfois, surtout quand il parlait des pouvoirs de guérison de l'électricité, une lueur de folie passait dans son regard. Pas tellement différente de la fois où il avait prêché le serment qui lui avait coûté son boulot à Harlow. « Charlie !» C'était comme ça que je l'appelais désormais. « Est-ce que vous voulez parler d'électrochoc ?» Il me considéra d'un air grave, tout en boutonnant le haut de son pyjama blanc d'interné. « Oui et non. Et certainement pas dans le sens conventionnel du terme, parce que ce n'est pas avec de l'électricité conventionnelle que j'ai l'intention de te soigner. Mon spectacle paraît incroyable parce que c'est ce que les clients demandent. Ils ne viennent pas ici pour voir la réalité, Jamie. Ils veulent du fantastique. » Mais il existe vraiment une électricité secrète, et ses usages sont multiples. Je ne les ai simplement pas encore tous découverts, y compris celui qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire? Pas maintenant. J'ai donné plusieurs représentations épuisantes, et j'ai besoin de sommeil. J'espère que tu seras encore là demain matin, mais si tu décides de partir, c'est ton choix. À une époque, vous auriez dit qu'il n'y a pas réellement de choix, seulement la volonté de Dieu. J'étais un homme différent, un jeune homme avec des croyances naïves. Vas-tu me souhaiter bonne nuit maintenant? Je lui ai souhaité bonne nuit, puis je me suis rallongé dans le lit qu'il m'avait cédé. Il n'était plus pasteur, mais il avait gardé la fibre du bon samaritain de bien des façons. Je n'étais pas complètement nu, comme l'homme attaqué par des brigands sur la route de Jéricho, mais l'héroïne m'avait bien dépouillé. Il m'avait nourri, offert un refuge et m'avait maintenu sous hache, juste ce qu'il fallait pour m'empêcher de péter les plombs. Maintenant, la question était de savoir si, oui ou non, j'avais envie de le laisser m'aplatir les ondes cérébrales à coups de décharge électrique, ou carrément me tuer en me bombardant des mégavolts de son électricité spéciale dans la tête. 5 fois, ou peut-être 10 ou 15, j'ai pensé me lever pour aller écumer la foire jusqu'à trouver quelqu'un qui me vendrait ce dont j'avais besoin. Ce manque, c'était comme une foreuse qui me perçait le crâne de plus en plus profondément. D'infimes prises nasales de hache ne l'avaient pas terrassé. J'avais besoin d'une grosse dose directement injectée dans le système nerveux central. J'ai même réussi une fois à me sortir du lit et à attraper mon t-shirt, déterminé à y aller et à le faire. Et puis, je me suis rallongé, tremblant, transpirant et pris de spasmes musculaires. J'ai fini par m'assoupir, à m'abandonner en pensant « demain ». Je m'en irai demain. Mais je suis resté. Et le 5e matin, je crois que c'était le 5e, Jacobs s'installa au volant de son Bounder, mit le contact et dit « Roulez, jeunesse !» Et je n'ai pas eu le choix, à moins d'avoir envie d'ouvrir la portière et de sauter en marche, parce qu'on roulait déjà.